Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts, mais d'égale importance. La police, qui enquête sur les crimes, et le procureur, qui poursuit les criminels. Voici leurs histoires, et celle de Hegel, qui tient l'application du droit comme corollaire indispensable à la liberté des citoyens. Hegel et la philosophie du droit, Law and Order, c'est parti. Mais c'est un plaisir de vous accueillir sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur de philosophie à l'université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Vous avez écrit plusieurs ouvrages sur Hegel, Le que sais-je, Hegel et l'hegelianisme, L'effectif et le rationnel, Hegel et l'esprit objectif, c'était aux éditions Vrin. Une traduction des principes de la philosophie du droit de Hegel qui vont nous occuper aujourd'hui aux éditions PUF. Avez-vous reconnu le générique de la série télévisée Law and Order, New York Police Judiciaire?
Vaguement.
Bon, ça évoquera des souvenirs à ceux qui ont passé de longues heures devant la télévision entre 1990 et 2010. Cette série est intéressante, hormis le titre, parce qu'effectivement on est droit dans le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Les personnages de cette série, que ce soit des policiers, des procureurs ou des avocats, sont toujours dans une forme d'action. On ne connaît rien d'eux, on ne les voit qu'agir dans le cadre de leur métier, qui essaie de faire régner une justice et surtout qui veille à l'application du droit. Or, Hegel ne dit pas autre chose. Le droit ne vaudrait pas une heure de peine s'il n'était pas sans cesse appliqué. La pratique du droit est presque plus importante que la théorie du droit.
C'est tout à fait exact. Et en vous entendant, je pensais à une phrase qui me fascine toujours, des principes de la philosophie du droit, où Hegel écrit « Ce qu'est le sujet, c'est la série de ses actions ». Et ça montre que toute cette philosophie, en fait, est ce que, dans le langage de la philosophie contemporaine, on appelle une philosophie de l'action. Mais, évidemment, pour Hegel, l'action présuppose un réseau normatif qui va à la fois l'encadrer et, le cas échéant, la rectifier, parfois de façon quelque peu coercitive.
C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble au cours de l'heure qui nous attend, Jean-François Kervégan. Je choisissais de commencer cette émission avec cette référence à la série de manière un peu humoristique pour dédramatiser l'atmosphère, parce que quand on parle de Hegel et de la politique, et la première chose qui vient à l'esprit, c'est l'association, alors vous nous direz sans doute malvenue, entre les écrits de Hegel sur la politique et sur l'État, et l'histoire de l'État en Allemagne, notamment l'avènement d'un État fort, totalitaire, voire même fasciste.
Oui, c'est une très vieille histoire, en réalité. Dès la parution des principes de la philosophie du droit et sa préface, écrite au dernier moment, alors que l'ouvrage était déjà terminé...
En 1820, donc.
En 1820. La préface est apparue comme un manifeste d'allégeance au pouvoir en place, au roi de Prusse, et à la politique réactionnaire, répressive, qui se mettait en place à cette période dans toute l'Allemagne, mais en Prusse en particulier, à la suite d'un incident. Un jeune homme exalté avait assassiné un homme politique extrêmement réactionnaire, et ça a servi de prétexte à une politique de répression des intellectuels, des étudiants, etc. Et Hegel, qui avait la réputation d'être un libéral, on dirait aujourd'hui un homme de gauche ou de centre-gauche, s'est senti probablement menacé. Beaucoup de ses élèves étaient, si j'ose dire, dans le collimateur. Certains ont été emprisonnés. Et il semble qu'il ait éprouvé le besoin de donner des gages, en quelque sorte, avec cette préface. Qu'on peut, je l'ajoute aussitôt, lire tout à fait autrement. Pour ma part, je considère que la préface des principes de la philosophie du droit, autant et plus qu'un manifeste d'allégeance au pouvoir en place, est un grand texte d'épistémologie politique, un texte qui nous enseigne, comme le dit Hegel dans la préface, non pas ce que l'État doit être, mais comment il doit être connu. Mais il reste que cette réputation est restée attaché à l'œuvre de Hegel dans son entier, c'est-à-dire que les principes de la philosophie du droit ont été en quelque sorte le maillon faible qui a permis à toute une tradition de mettre en cause la philosophie de Hegel. Le meilleur exemple, c'est probablement le livre de Popper, La société ouverte et ses ennemis, où Platon et Hegel apparaissent comme les deux grands ancêtres du totalitarisme nazi. On a aussi écrit en 1970 un ouvrage qui s'appelait « De Hegel à Hitler ».
Juste pour citer Popper, qui par ailleurs disait « Si l'on voulait abrutir un jeune homme et le rendre incapable de réfléchir, il faudrait lui conseiller la lecture de Hegel ». Et il disait dans ce livre donc « La société ouverte et ses ennemis » qui date de 1940 « Le succès de Hegel marqua le début de l'âge de la malhonnêteté et de l'âge de l'irresponsabilité, c'est-à-dire du totalitarisme moderne, d'une responsabilité d'abord intellectuelle, et puis, ce fut l'une de ses conséquences, d'une irresponsabilité morale, un nouvel âge régi par la magie des mots éclatants et par le pouvoir du jargon.
C'était la contribution de Popper à l'effort de guerre. Popper avait quitté l'Allemagne, heureusement pour lui d'ailleurs, et émigré. Et donc c'était sa contribution à l'effort de mobilisation des esprits contre le fascisme, contre Hitler. Ce qui explique en particulier le ton dramatique de l'ouvrage et la mise en scène. Mais cela dit, sur le fond, il se trompe, mais il se trompe en héritant de toute une tradition de lecture que je considère erronée, mais qui a incontestablement forgé durablement, surtout dans un public de non-spécialistes, l'image de Hegel. Et c'est presque toujours à partir de cette œuvre qu'on a voulu réfuter le système dans son ensemble, le meilleur exemple étant fourni par un livre qui a été traduit il y a quelques années, mais qui date de 1857, « Hegel et son temps » de Rudolf Heim, qui est un livre, ça a été traduit chez Gallimard il y a quelques années, par Pierre Osmo. C'est un livre, par ailleurs, tout à fait remarquable, mais qui, manifestement, construit une interprétation globale de la pensée de Hegel à partir d'une lecture des principes, et notamment de cette préface, où il construit l'image d'un Hegel philosophe de la Restauration.
Alors que répondez-vous à ces détracteurs ? Quand on ouvre les principes de la philosophie du droit, on trouve cette forme de matrice générale qui semble penser ensemble, ne pas distinguer le droit, la morale, la politique, l'État. Quelles sont les nuances qu'il faut saisir pour ne pas lire Hegel comme étant le précurseur de cet État totalitaire ?
Alors je répondrai deux choses. La première, c'est que quand on lit le texte, notamment la partie concernant l'État, que nous dit-il ? Que l'État rationnel est une monarchie constitutionnelle. Qu'était la Prusse en 1820 et qu'était la Prusse jusqu'en 1851, une monarchie qui refusait d'être constitutionnelle. Le roi de Prusse refusait l'adoption d'une constitution et Hegel n'a jamais connu la monarchie constitutionnelle. Donc ça montre déjà qu'il y a un écart considérable entre la réalité, justement le réel n'est pas rationnel. Le réel, c'est-à-dire la monarchie prussienne telle qu'elle est, n'est pas rationnelle. Ça, c'est le premier élément de réponse. Et le deuxième élément de réponse, sur un tout autre terrain, regardons quels sont les héritiers de Hegel, les véritables héritiers de Hegel. Les héritiers de Hegel, c'est ce qu'on a appelé les jeunes hegeliens, ou la gauche hegelienne, dont le représentant le plus brillant, le plus illustre, et lui aussi très contesté, est Karl Marx. Pratiquement, la pensée de Hegel n'a eu un héritage fructueux que dans le camp de ce qu'on appelle, très vaguement, le progrès politique. Des jeunes hegeliens, Marx et beaucoup d'autres, à Lukács et bien d'autres penseurs du XXe siècle. Un des derniers étant probablement Axel Honneth, qui, dans son récent livre « Le droit de la liberté », se propose explicitement de construire une théorie de la démocratie en réactualisant les principes de la philosophie du droit de Hegel. Je n'imagine pas un tenant du fascisme tentant de justifier le fascisme à partir de Hegel, en tout cas, les nazis détestaient Hegel.
Oui, ça n'a pas été fait. Tout ça, l'histoire montre. Enfin, que l'un d'entre eux a brandi Hegel comme étant une source d'inspiration ?
Non, pour une raison d'ailleurs assez simple, je crois.
Il est difficile à dire.
C'est que le nazisme détestait l'État. Et la glorification de l'État, quelle que soit la vérité de cette représentation, la glorification de l'État qu'on lit, au moins en apparence, chez Hegel, était contradictoire avec la mythification de la race, du chef, etc., qu'on trouvait chez lui. Pour être honnête, il est vrai que du côté du fascisme italien, il y a eu certains philosophes non négligeables, d'ailleurs le meilleur d'entre eux étant Giovanni Gentile, qui ont tenté effectivement, disons, de mettre la pensée de Hegel au service du fascisme. Mais ça reste relativement marginal.
Bien souvent, la meilleure façon de protéger un philosophe des mauvaises lectures ou des contradictions qu'on veut pointer chez lui, c'est tout simplement de le lire. La réponse se trouve souvent dans le texte, c'est ce qu'on va faire ensemble, et je vous propose qu'on écoute un extrait des Principes de la philosophie du droit, dans lequel Hegel affirme qu'il n'est pas du rôle de la philosophie que de dire comment les choses devraient être, mais au contraire, son rôle doit être de décrire comment les choses sont, de décrire le monde tel qu'il est. Écoutez.
Conceptualiser ce qui est, c'est la tâche de la philosophie. Car ce qui est la raison. En ce qui concerne l'individu, chacun est de toute façon un fils de son temps. Ainsi, la philosophie est elle aussi son temps à appréhender en pensée. Il est tout aussi sot de rêver qu'une quelconque philosophie surpasse le monde présent, son monde, que de rêver qu'un individu saute au-delà de son temps, qu'il saute par-dessus Rhodes. Pour dire un mot de l'enseignement qui dit comment le monde doit être, la philosophie, de toute façon, vient toujours trop tard pour cela. En tant que pensée du monde, elle n'apparaît dans le temps qu'après que l'effectivité a achevé son procès de culture et est venue à bout d'elle-même. Ce que le concept enseigne, l'histoire le montre nécessairement de la même manière. C'est seulement dans la maturité de l'effectivité que l'idéal apparaît en face du réel et qu'il édifie pour lui-même ce même monde saisi dans sa substance sous la figure d'un règne intellectuel. Quand la philosophie peint gris sur gris, alors une figure de la vie est devenue vieille. Et avec du gris sur gris, elle ne se laisse pas rajeunir, mais seulement connaître. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à l'irruption du crépuscule.
Écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Hegel est au programme cette semaine. Aujourd'hui, Hegel et l'État, Hegel et le droit, les principes de la philosophie du droit. C'est le titre de l'ouvrage écrit par Hegel en 1820, dans lequel on trouve cette phrase restée célèbre, Jean-François Kervégan, que vous allez nous aider à élucider. C'est dans votre traduction, en plus. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à l'irruption du crépuscule. Qu'est-ce que ça veut dire? La sagesse arrive toujours après coup?
Ben oui. C'est, disons, tout ce passage qui a été lu de la préface est destiné à indiquer que le rôle de la philosophie par rapport à la réalité historique et politique ne peut jamais être, je dirais, naïvement prescriptif. Donc il y a là clairement une prise de position contre ce qu'on pourrait appeler un kantisme, ou un kantisme sans doute simplifié, disant que la tâche de la philosophie, de la philosophie pratique en particulier, c'est bien d'énoncer des normes auxquelles le réel ou l'action des hommes devra se conformer ou tenter de se conformer. Contre cela, Hegel, non pas abdique la vocation normative de la philosophie, mais tente de changer le sens de cette vocation. Pour lui, la tâche du philosophe, c'est plutôt d'exprimer ou de porter à l'expression la normativité immanente, la normativité qui porte le mouvement du réel et qui n'est pas encore apparente dans l'immédiateté de l'événement. Donc il s'agit pour le philosophe de, par une sorte de diagnostic, de mesurer ce vers quoi le réel s'achemine, ce vers quoi le monde des hommes s'achemine, sans qu'il en soit toujours déjà clairement conscient.
Et donc c'est ça, presque un travail de psychanalyste, arriver à déceler ce qui est là sans que ce soit formulé.
Oui, on pourrait dire cela.
Comme
oui.
Un inconscient de ce qu'il appelle l'esprit objectif, d'une sorte de mentalité d'une culture ou d'un peuple, et le mettre au jour.
Oui, tout à fait. Le mettre au jour, y compris dans ses contradictions.
Oui.
Montrer en quoi ce qu'il appelle l'esprit du peuple, Montesquieu disait l'esprit général de la nation, s'incarne plus ou moins bien dans des institutions qui sont ce qu'elles sont, mais ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être, non pas par rapport à des critères abstraits formulés par le philosophe, mais par rapport aux exigences de cette réalité elle-même. En somme, le philosophe a pour tâche de suggérer à la réalité d'être à la hauteur d'elle-même.
Mmh. Mais ça demande une connaissance presque surhumaine de la part du philosophe. Il faut arriver à saisir l'esprit d'un peuple pour lui indiquer la direction à suivre pour que cet esprit puisse advenir. C'est pas ce qu'on apprend à l'université. Pardonnez-moi, vous êtes professeur à l'université, à moins que vous ayez ce talent-là de prendre cette sagesse.
J'aimerais bien.
Mais vraiment, c'est assez difficile à atteindre, me semble-t-il.
Oui, absolument. Hegel répondait à cela avec une extraordinaire fausse modestie en disant « Je ne suis que le secrétaire de l'esprit du monde. Donc j'écris sous la dictée. » Évidemment, encore faut-il être capable d'avoir l'oreille qui permette d'entendre ce que l'esprit du monde pense. Disons qu'en réalité, ce que faisait Hegel, ce que fait la philosophie, pas seulement Hegel, ce que fait la philosophie d'une manière générale, c'est toujours de porter au jour les tendances du présent. Le meilleur exemple de cela, c'est peut-être la manière dont il lit la République de Platon. Il y a un texte fabuleux, à deux reprises, il s'y reprend à deux reprises dans les principes de la philosophie du droit, une fois dans la préface, une fois dans le corps du texte, où il dit, on présente toujours la République de Platon comme le prototype du songe creux d'un philosophe qui est complètement coupé de la réalité, etc. C'est totalement faux, dit-il. En réalité, dans la République, Platon a mis au jour les tendances et les contradictions de la cité grecque dans laquelle il vivait. C'est parce qu'il avait compris que la cité grecque ne pourrait supporter la naissance de l'individu que Platon, dans la République, systématiquement élimine tout ce qui pourrait permettre à l'individu d'affirmer son autonomie. Et donc, il lit la République de Platon, je vais employer un terme que j'emprunte à l'école de Francfort et qui n'est pas celui de Hegel, mais il lit dans la République de Platon un diagnostic d'époque, un diagnostic sur la cité grecque et sur ce qui, et il dit, ce qui montre le génie de Platon, c'est qu'il avait très bien compris ce qui allait conduire la cité grecque à sa perte, l'affirmation de l'individu, que ce soit à travers Socrate revendiquant de penser par lui-même ou plus tard à travers l'apparition du christianisme et de l'affirmation que la conscience morale et religieuse doit pouvoir juger par elle-même du bien et du mal et non pas de se conformer strictement aux règles de la cité.
Mais il y a aussi une dimension idéale au texte de la République de Platon. Or, Hegel dit bien qu'il faut que le philosophe se garde de proposer une forme d'utopie ou d'idéal.
Justement, il dit que la République n'est pas une utopie ou un idéal.
Lui,
il dit
aussi, il y a une dimension utopique.
Ça, lui le nie. C'est ça qui est très intéressant dans sa lecture. Il dit non, c'est véritablement l'analyse la plus intelligente, la plus géniale qui ait été faite de ce qui allait, mais ce n'était perceptible qu'à un esprit hors du commun, de ce qui allait à terme condamner la polis à la décadence, à savoir l'affirmation de l'individu, de ses buts, que ce soit sur le plan moral, sur le plan religieux ou tout simplement sur le plan social et économique.
Et Hegel ne dit pas entre autre chose dans le texte que nous venons d'entendre lorsqu'il écrit « En ce qui concerne l'individu, chacun est de toute façon un fils de son temps ». C'est-à-dire que nous sommes toujours tributaires, non seulement d'un lieu donné, mais aussi d'un temps, d'une certaine temporalité dans laquelle nous écrivons ce que nous écrivons, nous pensons ce que nous pensons. C'est une manière d'incarner, et là j'insiste sur ce point, parce que nous avons vu au cours des émissions précédentes la dimension théorique, parfois abstraite, de la philosophie de Hegel, bien qu'il s'en défende dans son vocabulaire, dans son choix de langage, dans sa structure. Il y a une dimension systématique qui paraît coupée du réel. Or, rien n'inquiète tant Hegel que la pensée qui ne s'incarne pas dans quelque chose. Et la pensée du droit, me semble-t-il, est la meilleure façon sans doute de saisir cette urgence pour Hegel de l'incarnation ou de la matérialisation de ce qu'il appelle l'esprit.
Oui, tout à fait. Cette phrase « l'individu est toujours le fils de son temps », elle vaut pour l'individu philosophe, mais elle vaut aussi pour tout individu. Mmh. Et qui pourrait sérieusement dire le contraire ? Il me semble que c'est frappé au sceau de l'évidence, simplement... Une chose est d'être le fils de son temps, autre chose est de prendre conscience de ce que ça signifie, de ce que ça implique, de ce que ça interdit, de ce que cela permet. Et ça, c'est sans doute la tâche du philosophe de porter à jour ce que signifie cette appartenance à une époque, à un monde dont nous sommes toujours solidaires mais qui n'est pas pour autant l'horizon ultime de l'histoire humaine.
Alors pourquoi cet ouvrage s'appelle-t-il « Principe de la philosophie du droit » puisqu'il y est question de politique, de l'État, de l'avènement de la liberté, on parle de morale également. Pourquoi cette importance du droit pour Hegel ?
Alors, tout d'abord, il faut rappeler que l'ouvrage a deux titres. Il est paru comme ça, avec deux titres, en vis-à-vis, en quelque sorte, l'un en face de l'autre. L'un, c'est « Principe de la philosophie du droit », et ça, c'est une expression qui était tout à fait inusitée au moment où Hegel l'emploie. Pratiquement, l'expression « philosophie du droit » naît avec lui. En fait, un tout petit peu avant lui, elle a été créée, si je puis dire, par Anselm Feuerbach, le père de Ludwig, qui était un juriste, un grand juriste allemand. Et c'est lui qui a, à ma connaissance, été le premier à utiliser cette expression. Mais l'ouvrage, je reviens à Hegel, avait un deuxième titre, et beaucoup plus traditionnel, « Droit naturel et science de l'État ». Et là, si je puis dire, on se retrouvait en terrain connu. Droit naturel, eh bien, c'était une discipline universitaire qui s'enseignait dans toutes les universités allemandes. Il y avait des chaires de droit naturel. Et donc là, on était en terrain beaucoup plus connu. « Principe de la philosophie du droit », c'est donc une quasi-innovation de Hegel. Et ce qui est encore plus une innovation, comme vous l'avez souligné, c'est le droit que se donne Hegel, et il le revendique, il l'affirme, de donner à cette notion de droit une extension absolument inusitée, puisqu'il y inclut tout ce que, dans son propre vocabulaire, il va appeler, ou il a appelé, l'esprit objectif. C'est-à-dire toutes les configurations institutionnelles, normatives, qui encadrent l'agir des hommes, qu'il s'agisse du droit stricto sensu, donc, disons, du droit privé, dont il est question dans la première partie des principes, qu'il s'agisse des structures familiales, dont il est question dans la troisième partie, qu'il s'agisse des structures sociales, des configurations institutionnelles qui régulent l'agir des hommes dans ce que Hegel appelle, encore une innovation de lui, la société civile. Qu'il s'agisse enfin de l'agir des hommes en tant que citoyens ou concitoyens dans le cadre de l'État, tout cet ensemble, Hegel se donne le droit de le regrouper sous un concept qui est effectivement extraordinairement élargi de droit. Mais le fait que le droit soit le concept sous lequel Hegel entende faire rentrer toutes ces choses est tout à fait significatif en lui-même. C'est une philosophie du droit. Ça veut dire que pour Hegel, comme déjà pour Kant d'ailleurs, le droit est quelque chose de fondamental. Et bien sûr, on doit voir dans cette affirmation du caractère fondateur du droit un héritage de la Révolution française, dont Hegel, malgré la mauvaise réputation qui est la sienne, jusqu'à la fin s'est toujours réclamé. Il s'est toujours réclamé de ce superbe lever de soleil, comme il dit encore en 1830, qu'a été la Révolution française, et de ce catéchisme élémentaire, l'expression est de lui, qu'est ou que devrait être la Déclaration des droits de l'homme, qu'on devrait en quelque sorte apprendre par cœur dans les écoles.
Alors pourquoi vous expliquez ce qu'il entend par droit et pourquoi cette philosophie du droit, mais pourquoi le droit est-il fondamental dans le cadre de sa pensée, de l'avènement de l'esprit à lui-même, de l'avènement de cette liberté? Comment le droit garantit-il la liberté? Parce que ça ne va pas de soi.
La réponse que je peut essayer de formuler serait la suivante. Hegel a toujours considéré la liberté comme un processus et non pas comme un état. La liberté est un processus, le processus par lequel, individuellement et collectivement, nous advenons à nous-mêmes en nous opposant à nous-mêmes, en quelque sorte. Bon, la dialectique dont vous avez déjà parlé dans les précédentes émissions. Et la liberté, c'est la définition, alors elle est énigmatique bien sûr que Hegel en donne, la liberté consiste à être auprès de soi-même dans l'altérité à soi.
D'accord.
Être auprès de soi, mais dans l'altérité à soi.
Soi-même comme un autre.
Oui, c'est cela en quelque sorte. Or, cet être auprès de soi-même dans l'altérité à soi suppose des médiations institutionnelles. Et toute la théorie de l'esprit objectif, hein, c'est cette expression énigmatique que forge Hegel, mais qui est très intéressante. L'esprit, c'est pas simplement ce que nous avons dans la tête. Il y a un paragraphe de l'Encyclopédie des sciences philosophiques, j'ai oublié lequel, où Hegel écrit cette chose tout à fait étonnante. L'esprit, ce n'est pas l'idée que les hommes ont, c'est celle qu'ils sont. Donc non pas les idées qu'ils ont dans la tête, mais les idées qu'incarnent leur manière d'être, leur agir, leur organisation sociale et politique, etc. C'est cela que Hegel appelle l'esprit objectif. Et ce système ou cet ensemble de configurations institutionnelles juridique, sociale, politique, familiale, est nécessaire à l'avènement de l'être auprès de soi. Ce sont en quelque sorte la médiation extérieure ou le moment d'extériorité qui nous permet de venir auprès de nous-mêmes.
Et donc d'être libre.
Et donc d'être libre et, en fin de compte, d'être des individus.
Donc, si je vous comprends bien, l'esprit objectif qu'on pourrait caractériser par comme l'esprit d'un peuple, il a une forme de mentalité, je crois que c'est mon invité hier, Gilles Marmas, qui proposait le terme de mentalité d'un peuple. Donc tout ce qui traduit ses institutions, sa famille, sa manière d'être ensemble, sa manière de faire société, sont des éléments indispensables pour que l'homme se vive lui-même comme étant un individu libre, c'est-à-dire non seulement un sujet, mais aussi un individu libre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de distinction ici entre l'esprit objectif, le caractère institutionnel politique, et la liberté à l'échelle individuelle.
Absolument. Dans l'encyclopédie, donc dans le système de Hegel, l'esprit objectif n'est qu'une partie, une partie d'une partie, puisque c'est la partie médiane de la troisième partie de ce système. Il y a la logique, la philosophie de la nature, la philosophie de l'esprit, qui elle-même se divise en esprit subjectif, esprit objectif, esprit absolu. Ce que nous explique Hegel dans la théorie de l'esprit objectif, c'est que l'esprit objectif n'est pas la conséquence, mais plutôt la présupposition de l'esprit subjectif. C'est-à-dire ce qui nous permet d'être des sujets, d'accéder à nous-mêmes en tant que sujets. Ça veut dire être capable de nous prendre en main, d'agir, bien ou mal. C'est cet ensemble organisé, objectivement organisé, qui nous permet de devenir nous-mêmes. Juste une petite... Alors, à propos de la... C'est plus qu'une mentalité, parce que l'esprit objectif s'incorpore aussi dans des pratiques qui ne font pas l'objet d'une réflexion. Il y a des rapprochements étonnants qu'on pourrait faire parfois entre certaines analyses de Hegel et certains développements de Bourdieu sur l'habitus. Structure, structurée, structurante, comme disait Bourdieu. Et il y a quelque chose de cela dans la théorie. Quand Hegel dit au début de... dans l'introduction de la section éthicité ou vie éthique, lorsque Hegel dit que les institutions de la vie éthique sont ce qui permet aux individus de devenir ce qu'ils ont à être, c'est exactement une manière de préfigurer en quelque sorte cette notion d'habitus que Bourdieu, par exemple, a théorisé. Et ce n'est pas un hasard, je termine là-dessus, si quelqu'un comme Durkheim, fondateur de la sociologie française, s'il a été un grand lecteur de Hegel et s'il s'est explicitement référé à Hegel lorsqu'il a construit cette idée de la mentalité collective qui nous agit en quelque sorte en même temps que elle nous permet d'agir nous individuellement.
Mais quelle est cette liberté à laquelle se réfère Hegel et qui doit advenir? C'est le but de sa philosophie qu'il développe, c'est quand même l'avènement de cette liberté-là. Si le droit garantit la liberté, est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose comme une liberté individuelle, une liberté de choisir entre le bien et le mal, une liberté d'agir moralement d'ailleurs, selon les normes qu'on se donne? Ou est-ce que la liberté ne serait qu'un cadre formel, finalement, qu'on pourrait identifier à ce que le droit garantit? Parce que philosophiquement, c'est complètement différent.
C'est une question très intéressante et très difficile. On pourrait y répondre de la manière suivante, ou tenter d'y répondre de la manière suivante. D'abord, Hegel construit un concept qu'on peut dire stratifié de liberté. Il y a une liberté qui se réalise au niveau du droit, par exemple le fait de pouvoir être propriétaire de certaines choses. C'est une première manifestation de la liberté, très insuffisante mais fondamentale. L'esclave, dit Hegel quelque part, l'esclave n'a pas de droit et donc il n'a pas de devoir. Quelqu'un qui n'a pas de droit ne peut pas avoir de devoir. Donc sa liberté est nulle. Mais cette liberté va se réaliser aussi à d'autres niveaux, au niveau social, au niveau politique, mais aussi, alors ça me donne l'occasion, votre question me donne l'occasion de revenir sur une grande singularité de cette philosophie du droit. Pourquoi inclut-elle une théorie de la moralité?
Mais c'est ça. C'est là où je voulais en venir finalement.
Absolument. Mais c'est la question qu'on doit se poser. Pourquoi cette théorie de la moralité figure-t-elle dans la théorie de l'esprit objectif et non pas dans la théorie de l'esprit subjectif? Parce que, la réponse est celle-là, c'est que la subjectivité morale, qui, écrit-il, est un produit du monde moderne. Il n'y a pas de subjectivité dans le monde de l'Antiquité, ni même dans le monde médiéval. Le sujet, c'est le sujet moderne, ça ne peut être que le sujet moderne. Pourquoi cette théorie de la subjectivité morale, cette théorie d'un sujet qui a à choisir entre le bien et le mal dans son action, et j'ai rappelé tout à l'heure cette phrase étonnante, ce qu'est le sujet, c'est la série de ses actions. C'est quand même une phrase étonnante. Qu'on...
Ouais, on est à l'opposé de la morale de l'intention chez Kant.
Absolument. C'est une morale, justement, Hegel est absolument opposé à une morale de l'intention. Mais ce qui justifie l'inclusion de cette théorie de la subjectivité morale dans une théorie de l'esprit objectif, c'est le fait que, pour Hegel, la subjectivité morale ne peut exister que si elle agit et ne peut agir que si elle s'oriente par rapport à un réseau normatif. Alors Hegel appelle ça le bien, c'est une dénomination très traditionnelle, hein, Platon, n'est-ce pas, un réseau normatif par rapport auquel son agir a toujours à se situer. Et Hegel analyse dans cette section moralité de la théorie de l'esprit objectif ou des principes de la philosophie du droit, il analyse avec une grande finesse l'immense complexité du rapport que la subjectivité entretient avec des normes, et y compris tous les moyens. Il y a toute une remarque, la remarque du paragraphe 140, qui est le plus long passage des principes de la philosophie du droit, où il examine l'une après l'autre toutes les ruses, si l'on peut dire, que peut avoir le sujet pour contourner la norme et finalement, alors l'hypocrisie, et il cite d'ailleurs Pascal, il cite les provinciales, c'est la seule fois où il cite les provinciales de Pascal, très élogieusement bien sûr, pour dénoncer justement toutes ces ruses de la subjectivité qui permettent au sujet de s'affirmer comme un être parfaitement moral là où il agit de manière totalement immorale.
Eh bien, vous citiez le paragraphe 140, en voici un extrait, c'est l'homme qui se targue d'avoir une belle âme.
La conscience vit dans l'angoisse de souiller la splendeur de son intériorité par l'action et l'être là. Et, pour préserver la pureté de son cœur, elle fuit le contact de l'effectivité et persiste dans l'impuissance entêtée. Impuissance à renoncer à son soi affiné jusqu'au suprême degré d'abstraction, à se donner la substantialité, à former sa pensée en être et à se confier à la différence absolue. L'objet creux qu'elle crée pour soi-même la remplit donc maintenant de la conscience du vide. Son opération est aspiration nostalgique qui ne fait que se perdre en devenant objet sans essence et, au-delà de cette perte, retombant vers soi-même, se trouve seulement comme perdu. Dans cette pureté transparente de ces moments, elle devient une malheureuse belle âme, comme on la nomme. Sa lumière s'éteint peu à peu en elle-même et elle s'évanouit comme une vapeur sans forme qui se dissout dans l'air.
On sent toute l'ironie de Hegel dans ce texte, Jean-François Kervegan, avec cette belle âme qu'on a envie de mettre entre guillemets, qui sans doute fait référence à l'homme moral selon Kant. Alors, le texte lui-même est tiré de la phénoménologie de l'esprit. On trouve exactement la même idée dans les principes de la philosophie du droit. Hegel consacre une longue remarque à ce que vous disiez, la loi du cœur, hein, ce qui fait que on voudrait agir en fonction du bien et finalement on se targuerait d'avoir cette bonne intention, peu importe les conséquences. Alors, on voit la distinction avec Kant. Mais la question qui se pose alors est celle de savoir, est-ce que dans une société telle que Hegel la conçoit, est-ce que le droit ne suffirait pas? Finalement, la morale est complètement secondaire si on ne juge que les actions, si on ne juge que la conformité des actions au droit, puisque le droit garantit la liberté. Alors, on n'a plus besoin d'être moraux.
Au contraire.
Alors, dites-nous.
Au contraire, c'est-à-dire, ce que dénonce Hegel dans ce passage de la phénoménologie de l'esprit qui vient d'être lu, ou dans la très longue remarque du paragraphe 140 des principes de la philosophie du droit, c'est le jeu des faux-semblants par lequel la subjectivité peut finalement travestir son action en la faisant passer pour être bonne, alors qu'elle est intéressée, par exemple. La forme la plus extrême étant, selon Hegel, lorsque la subjectivité se retranche dans le non-agir, dans l'inaction, pour éviter de prêter le flanc à la critique qui dirait « mais alors tu agis immoralement ». Et Hegel est impitoyable avec ces formes de la bonne conscience.
Qui sont en fait une forme de lâcheté.
De lâcheté et de bonne conscience. Le sujet n'est moral que s'il agit. Mais agir, ça veut dire aussi prendre position par rapport à des structures normatives, qui, elles, en réalité, vont présupposer un monde social. Hegel refuse de penser la morale séparément de ce qu'il appelle l'éthicité, la Sittlichkeit, la vie éthique, traduit-on parfois. Et d'ailleurs, à la fin de cette longue remarque critique sur les formes perverses de la bonne conscience morale, il est un critique impitoyable de la bonne conscience, il écrit que la conscience morale véritable, c'est la conscience sociale et politique de l'individu qui vit dans une société et y agit conformément à certaines règles. Conscience morale véritable.
Mais alors là, il n'y a plus de distinction entre la morale et le droit ici.
Le droit, le monde social et politique sont ce qui permet à la morale d'être effective, de ne pas être simplement un discours qui éventuellement peut être le masque de la pire immoralité, dans le cas de l'hypocrisie sociale, par exemple, mais d'une morale qui trouve dans la structuration d'un monde qui, comme dit Hegel, ne nous a pas attendu pour être, en quelque sorte, un appui à l'exercice de ses convictions normatives et à la mise en œuvre d'une action qui soit en accord, et effectivement en accord, et pas simplement verbalement, avec ses convictions normatives.
C'est dire le rôle important non seulement du droit, mais de l'État, pour Hegel. L'État qui serait le garant justement de ces institutions qui viennent établir comme un cahier des charges normatif à suivre pour agir de la bonne façon, selon Hegel. Si finalement c'est jamais à l'échelle individuelle, mais en conformité à l'institution ou la société ou le cadre dans lequel se meut l'individu, alors la référence, la norme ultime, c'est l'État finalement.
Oui, mais il y a un grand malentendu à propos de l'État. C'est-à-dire que très souvent, on lit Hegel, et c'est assez normal, en donnant à ce mot « État » le sens qu'il a dans l'usage que nous en faisons quotidiennement, à savoir l'État, c'est, comme dira Marx, une superstructure, un ensemble de configurations institutionnelles qui exercent sur nous une certaine pression, etc. Or, Hegel, dès le début de la section État, dit que l'État, c'est tout autant une relation intersubjective qu'une réalité institutionnelle.
L'État se trouve entre vous et moi.
Absolument. C'est le vouloir vivre ensemble. Et il le dit dès le début, au paragraphe 258, il explique que l'État, c'est la réunion en tant que telle. La réunion, ce qui nous fait être ensemble.
C'est la société civile.
Non, parce que, alors, oui et non. Hegel est l'inventeur, comme on le sait, enfin, de l'expression société civile, et il est le premier à avoir tenté de penser la distinction de la société civile et de l'État. Et si j'ai dit non à votre question, c'est parce que la société civile nous unit. Elle nous unit parce que nous sommes interdépendants, par exemple dans le système de la production que Hegel, dans son jargon, appelle le système des besoins. Mais elle nous sépare aussi et elle nous oppose. Quelque part, enfin, je crois que c'est au paragraphe 200, Hegel dit que la société civile contient en elle le résidu de l'état de nature. Parce qu'elle est aussi le lieu de la conflictualité, de l'affrontement, y compris des affrontements non seulement d'individus, mais de classes. Il y a une ébauche de théorisation, on pourrait dire, de la lutte des classes dans les paragraphes 240 et suivants de la philosophie du droit. Et Hegel conçoit l'État, pas seulement, mais il conçoit l'État aussi comme ce qui va, en quelque sorte, permettre de relever, c'est ainsi que Derrida traduisait l'intraduisible Aufheben. L'État, c'est ce qui permet de relever les contradictions de la société civile en imposant la norme du vivre ensemble, y compris à ce qui pourrait ou ce qui nous sépare. C'est-à-dire ce qui nous oppose socialement, par exemple, producteur-consommateur, employeur-employé, etc. L'État, c'est avant tout le vivre ensemble. Et Hegel dit aussi que l'État a une constitution objective, mais que cette constitution objective, c'est-à-dire les institutions politiques que nous connaissons, les différents pouvoirs entre lesquels l'État se distribue, que cette constitution objective de l'État n'est rien si elle ne s'accompagne pas d'une constitution subjective. C'est-à-dire que l'État, il est en nous, et entre nous, autant et plus qu'au-dessus de nous.
C'est difficile d'imaginer, de concevoir ce qu'il veut dire lorsqu'il parle de l'État comme étant présent dans l'intersubjectivité, comme étant en nous. Parce que l'État, on le conçoit comme une forme d'institution, un cadre extérieur. Et j'ai du mal à voir à quoi ça, il fait référence, là. L'État est en nous. C'est l'idée qu'on se fait de l'État qui guide notre agir.
Même pas. Même pas l'idée qu'on se fait de l'État, parce que l'idée que nous faisons de l'État est plutôt celle à laquelle vous avez fait allusion, et qui est la nôtre. Spontanément, nous représentons l'État comme quelque chose qui est en dehors de nous.
Oui.
Au-dessus, et qui éventuellement nous écrase.
Mais on n'a pas envie qu'il soit à l'intérieur, c'est assez effrayant comme idée.
Mais si on entend l'État au sens de l'esprit du vivre ensemble, ça prend une toute autre signification. Au paragraphe 268, donc c'est dans le cadre de la théorie de l'État, Hegel propose une définition tout à fait renversante du patriotisme, où il dit « Le patriotisme, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas la capacité à aller se faire tuer sur un champ de bataille. Les hommes sont, dit-il, plus volontiers courageux que droits. Le patriotisme, ça consiste à vivre avec... c'est l'esprit de concitoyenneté. C'est l'esprit du vivre ensemble. » Et ça, je ne l'invente pas, c'est dit en toutes lettres chez Hegel. Autrement dit, l'étatisme hegelien qu'on lui a tellement reproché, à mon avis, repose sur un contresens, c'est-à-dire qu'on projette sur la théorie hegelienne de l'État une représentation de ce qu'est l'État que lui veut précisément combattre, ou en tout cas écarter. L'État surtout ne doit pas être compris comme quelque chose qui est en dehors de nous, au-dessus de nous. Alors on pourrait appeler cela autrement. Aujourd'hui, on dit le vivre ensemble. Mais je crois profondément que ce que Hegel appelle l'État, c'est d'abord, pas seulement, d'abord le système de ce qui rend possible le vivre ensemble, la concitoyenneté.
Alors là, c'est très clair, mais quand on lit les phrases de Hegel lui-même, alors vous citiez le patriotisme, en effet, il dit par patriotisme, on entend fréquemment seulement l'aptitude à des sacrifices et des actions extraordinaires, mais essentiellement, il est la disposition d'esprit qui, dans la situation et le contexte de vie habituel, est accoutumée à savoir que la communauté est l'assise substantielle et la fin de cet État. Donc ça, c'est ce que vous disiez, c'est au paragraphe 268. Mais on trouve aussi, lorsqu'il parle de l'État, des phrases qui peuvent paraître, enfin qui sont compliquées à comprendre si on n'est pas familier de ce que veut dire Hegel. Et c'est là où vous nous êtes très utile. Il dit « L'État est la réalité effective de la liberté concrète ». Vous avez dit « L'État est aussi en nous », c'est ce qu'on appelle le vivre ensemble. Très bien, donc en effet, il y a une dimension effective. Mais en quoi est-ce que l'État serait la réalité effective de la liberté concrète? Il ne dissocie pas l'État de la liberté?
Ah non, absolument pas.
L'État, c'est la liberté.
L'État, c'est...
Mais l'État, c'est aussi la police, l'État, c'est aussi le droit. Enfin, c'est aussi ce qui vient mettre des bornes à ma liberté.
À une représentation que je peux avoir de ma liberté. J'ai intitulé la présentation de la traduction de la philosophie du droit « L'institution de la liberté ». Et évidemment, là, je jouais avec ce titre sur les deux sens du mot « institution ». L'institution comme quelque chose qui est là, etc., mais aussi ce qui institue, le mouvement qui institue. Et l'État est, pour Hegel, ce qui institue la liberté et aussi l'institutionnalise. Alors, la police, par exemple, la police ou la justice. Quand la justice me condamne, m'envoie en prison parce que j'ai commis un délit, quand la police me réprime ou me poursuit, etc. Est-ce qu'elle porte atteinte à ma liberté? Hegel répond non. Elle ne porte pas atteinte à ma liberté, mais à une représentation illusoire que je pourrais avoir de ma liberté, celle par exemple selon laquelle être libre, ce serait agir indépendamment des autres, agir indépendamment du tissu social dans lequel nous sommes immergés. Disons toutes les rêveries anarchisantes que Hegel, effectivement, condamne. Alors, si la liberté, c'est ce... Si on entend la liberté au sens de Max Stirner, alors, effectivement, les principes de la philosophie du droit, d'ailleurs, c'est Stirner lui-même qui l'a dit, sont la négation de toute liberté, ça le rend impossible. Mais on peut avoir, et je crois que... Pour ma part, je crois que Hegel a raison, qu'on peut avoir une autre représentation de la liberté que cette représentation anarchisante, selon laquelle liberté et normativité seraient absolument inconciliables. Nous avons besoin de normes pour être libres, qui nous aident à être auprès de nous-mêmes, y compris dans la difficulté de ce qui vient s'opposer, nous contraindre à certains moments, contraindre notre libre arbitre pour mieux faire advenir notre liberté.
Oui, c'est ça, à condition de placer la liberté collective avant la liberté individuelle. Ça demande quand même un sacré sens politique, un sacré sens du commun.
Je crois que pour Hegel, il pensait sincèrement que les deux allaient de pair, que la liberté politique ne pouvait que maximiser, si je puis employer ce terme, la liberté individuelle.
En fait, ça fonctionnerait dans un État très libéral.
Mais est-ce
le type d'État que Hegel appelait de ses voeux ?
Alors, tout dépend ce qu'on entend par libéral. Hegel, politiquement, me semble être incontestablement un libéral. Mais un libéral qui a compris que la liberté suppose un État, et même, jusqu'à un certain point, un État fort. C'est-à-dire un État capable de réprimer tout ce qui rend ou risque de rendre cette liberté irréalisable. Par exemple, Hegel, dans la théorie de la société civile, justifie la nécessité pour l'État d'intervenir dans l'économie. Donc il y a une théorie de l'État social, il y a une théorie de l'État social développée chez Hegel. Moi, j'ai dit parfois dans mes cours que Hegel est un social-démocrate avant la lettre. Je crois que c'est tout à fait exact. C'est-à-dire, si on considère que la liberté consiste dans l'absolue indépendance à l'égard de toute contrainte externe, alors Hegel n'adhère pas à cette vision de la liberté qui serait celle d'un libertarianisme extrême. Hegel n'est pas libertarien, c'est sûr.
Ça, c'est sûr.
Et les libertariens n'aiment pas Hegel. Mais il est un libéral au sens où il pense que l'État peut nous aider, l'État que nous sommes peut nous aider à nous rendre libres en combattant ou en corrigeant tout ce qui, dans notre agir, peut rendre impossible cette liberté. Et ce qu'il écrit, par exemple, à propos de la politique sociale est tout à fait remarquable à cet égard. L'État doit intervenir dans les mécanismes économiques et sociaux, avoir une politique redistributrice, etc.
Que ce soit sous une monarchie ou une république, ou quelle que soit la modalité d'établissement de cet État.
Là, et c'est là que sa pensée porte incontestablement la marque de son temps, hein, mais on ne peut pas le cacher, Hegel explique l'État rationnel, c'est la monarchie constitutionnelle. J'ai dit tout à l'heure, hein, il faut quand même pas l'oublier, que cette monarchie constitutionnelle, elle était encore de l'ordre du rêve, en tout cas en Allemagne, au moment où il le disait. Mais incontestablement, il dit cela. Il explique aussi que la démocratie, c'est un autre chapitre, que la démocratie, c'est pas bien du tout. Mais à mon avis, justement, enfin, j'avais écrit il y a longtemps un article où j'expliquais que si on voulait être démocrate, il y avait beaucoup à apprendre des critiques que Hegel fait à la démocratie. Mais incontestablement, il accorde la préférence à un type de régime dans lequel la plupart d'entre nous ne se reconnaîtraient pas, encore que, est-ce que les institutions de la Ve République n'ont pas quelque chose à voir avec l'État monarchique tel que Hegel le décrit ? À une réserve près, bien sûr, l'hérédité, jusqu'à présent, en tout cas.
Nous élisons
notre monarque.
Nous l'élisons à l'Élysée. Merci à vous. En tout cas, on se quittera avec cette question. Jean-François Kervégan, je renvoie à la lecture des principes de la philosophie du droit et à vos ouvrages Hegel et l'hégélianisme au PUF, l'effectif et le rationnel, Hegel et l'esprit objectif chez Vrin. On se quitte comme on a commencé, Law and Order, mais cette fois-ci la chanson de The Committee.
Game.
Avant de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie, Jean-François Kervégan, un dernier mot. Vous vouliez rendre hommage à Jean Gaillon qui nous a quittés ces derniers jours.
Oui, j'ai été très heureux que vous, Géraldine,
qui vient de s'installer en studio,
rendiez bonjour, que vous rendiez hommage à Jean Gaillon. Je voulais simplement dire, et France Culture aussi sur son site lui a rendu hommage. J'ai été très sensible à cela et je voulais dire que Jean Gaillon était non seulement un philosophe et de la biologie et un historien des sciences de réputation internationale, mais qu'il était aussi un universitaire exemplaire. Et ça a été pour moi un plaisir et un honneur de le côtoyer à la Sorbonne pendant une quinzaine d'années où nous avons enseigné l'un et l'autre. Et voilà.
C'était votre collègue à Paris.
C'était mon collègue.
Merci à vous de lui rendre cet ultime hommage, même s'il y en aura sans doute beaucoup d'autres. Et merci d'être venu pour nous parler de Hegel aujourd'hui. Géraldine Mosna-Savoie, c'est votre heure, c'est l'heure de retrouver le journal de la philo sur France Culture.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même. Incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Rebonjour.
Alors, votre actualité pour votre journal de la philo du jour, c'est la création.
La création et la folie, précisément grâce à ce livre du psychiatre et psychanalyste Thierry Delcourt qui sort aujourd'hui même aux éditions Max Milo, La folie de l'artiste créée au bord de l'abîme. Alors, Thierry Delcourt s'était déjà penché sur la création avec un livre consacré à Caroline Carlson et avec aussi un autre livre, Créer pour vivre, vivre pour créer. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la vie ni l'universel qui l'intéresse, mais au contraire, la création à partir de cas singuliers qui frôlent l'abîme, la folie, la dépression et même le suicide. Premier cas.
Vous savez que j'ai l'habitude, depuis ma plus tendre enfance, de jamais répondre à ce qu'on me demande. Par contre, j'ai enchanté de parler de l'exposition des aquarelles de Cézanne à la galerie Verneim. Parce que avec cette exposition, ça sera le triomphe de ce que j'ai dit tout le long de ma vie. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément Monsieur Paul Cézanne. C'est le peintre le plus maladroit, le plus catastrophique et celui qui a plongé l'art moderne dans la merde sublime qui est en train de nous engloutir à tous.
Ben ça c'est dit, donc c'est Dali, c'est ça qui...
Bravo Dali.
Alors son hommage à Cézanne.
Exactement, il l'adorait apparemment. Avec lui, le lien entre folie et création, donc avec Dali, ce lien paraît tomber sous le sens tant il incarne l'artiste du délire sans limite, ni surmoi, ni vernis social. Pourtant, la folie de Dali n'a rien à voir avec celle si classique de l'artiste maudit, par exemple Van Gogh ou Camille Claudel. Et elle n'a rien à voir non plus avec la folie plus clinique d'un Francis Bacon ou d'un Jean-Michel Basquiat. Pourtant, le lien entre art et folie, quel qu'il soit, nous paraît au fond évident. Mais en quoi la folie serait-elle une composante de la création? Dans quelle mesure? Quel grain faut-il avoir pour créer? Et faut-il seulement avoir un grain? Par exemple, chez Dali, de quoi s'agit-il? D'une petite fantaisie ou d'un total mal-être? Eh bien, ce sont précisément les questions qui sont soulevées ici. Car Dali lui-même brouillait les pistes, il jouait avec son nom, son image, ses rêves, la veille et le sommeil, l'inconscient et l'inconscience. La folie semble même sa création, mais juste ce qu'il faut. Assez fou pour créer, mais pas trop non plus pour être pris au sérieux.
Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier, ne pas ouvrir la poche anale, mais il a choisi de chier. Comme il aurait choisi de vivre, au lieu de consentir à vivre mort. C'est que pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être, c'est-à-dire à mourir vivant.
Et ben là, on est bien loin de Hegel, Géraldine.
Ah, bah bien loin. Écoutez, ça tranche. Faut passer à autre chose. Donc encore de la merde.
Ah, oui, après... pas si sûr, dit Jean-François Kervégan. On lui donnera la parole après.
Ah, oui, ça m'intéresse.
Allez-y.
Alors, après la merde de Cézanne, enfin, selon Dali, il y a donc celle d'Antonin Artaud. C'est un des autres cas évoqués dans ce livre pour évoquer les liens entre l'art et la folie. Mais avec lui, Artaud, donc, c'est moins la question du dosage, de la quantité de folie qui se pose que celle de ses propriétés. Comment être fou? Quelles propriétés folles faut-il avoir pour créer sans pour autant tomber complètement dedans? dedans. Comment se tenir au bord de l'abîme sans sombrer soi-même? Eh bien, c'est tout le paradoxe de la folie dans l'art, celle de son identification d'abord, de son dosage ensuite, et puis celle de sa valeur. Comment la cultiver, laquelle, et donc comment en faire délibérément une condition pour créer? Comment choisir d'être fou pour s'en servir à bon escient? Est-ce vraiment possible? Dali y répond d'une certaine manière, Artaud aussi, mais quand Dali faisait de son délire une création qui ne concernait que lui, Artaud, lui, eh bien il en a fait une lucidité, une clairvoyance sur le monde.
Vous avez des gants de plongeur, vous les trempez des chiffons dans un seau, vous les étendez, c'est un peu un travail de bonne petite ménagère, non?
Oui, vous avez raison, ça fait une partie de mon travail, mais le résultat n'est pas une cuisine. Je ne vais pas vous présenter avec un pot-au-feu, mais j'essaye de vous présenter avec un espèce de délire spirituel de moi-même.
Et pourtant, le résultat n'a rien de féminin.
Eh bien, je ne suis absolument pas d'accord avec vous. Le résultat est féminin, puisque moi, je suis une femme. Ce qui m'intéresse, c'est exprimer une certaine poésie que je sens en moi. Eh bien, je ne peux que exprimer une poésie féminine.
Vous avez l'air atterrée, Adèle.
Ah oui, là, par le niveau des questions, oui, c'est en effet, l'essentialisation féminine est toujours quelque chose qui est atterrant.
Donc ce dernier exemple, c'était celui de Niki de Saint-Phalle, où l'art ici, alors complètement inverse, de se servir non pas de la folie pour créer, mais de l'art comme remède à son malaise. Et là encore, la question de l'identification, du dosage ou de la valeur se pose, mais tout à l'inverse et à propos de l'art. Comment faire de la création un remède sans pour autant complètement soigner sa folie et donc continuer à avoir besoin de l'art? Eh bien, de ces équilibres entre art et folie, les exemples ne manquent pas. Reste à savoir si nous sommes, nous, enfin moi en tout cas, non-artistes, lucides sur leurs liens et s'ils ne sont pas fantasmés aussi.
Bah, ça a l'air passionnant, rappelez-nous le titre du livre, Géraldine.
C'est La folie de l'artiste créée au bord de l'abîme, c'est de Thierry Delcourt, ça sort aujourd'hui aux éditions Max Milo.
Un rapport avec Hegel, Jean-François Kervégan, vous disiez ?
Je pensais en vous écoutant que Hegel s'est beaucoup intéressé à la folie dans ses cours sur la philosophie de l'esprit subjectif. Il y consacre des heures et des heures. Et dans l'encyclopédie, il a donné de la folie une définition que je trouve fascinante. La folie, c'est le malheur absolu de la contradiction. Et Hegel, pour Hegel, la contradiction, c'est quelque chose qui avait du poids.
Hegel, eh ben, merci, c'est pas ce qu'on connaît le plus de Hegel. Merci Jean-François Kervégan. Merci Géraldine Mosna-Savoy. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Isis Jourda, Maude Markevitch, Marianne Chassor, Marie Aubert. Cette semaine, Géraldine Mosna-Savoy bien sûr, Nicolas Berger qui était à la réalisation avec Milena Hellig, Florent Bujon qui est à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour les chemins du vendredi. Demain, je recevrai le philosophe Henri Atlan qui viendra vous parler de son cours de philosophie biologique et cognitiviste, Spinoza et la biologie actuelle, aux éditions Odile Jacob. Ce sera à 10h ça, donc demain sur France Culture. D'ici là, pour réécouter cette série d'émissions sur Hegel, mais aussi les précédentes, de toutes les semaines précédentes, les mois et les années qui précèdent cette série d'émissions, sachez que c'est possible et que c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, à la page des chemins de la philosophie, vous pouvez les réécouter en ligne, mais aussi les télécharger, les podcaster, afin de vous constituer une bibliothèque virtuelle mobilisable à n'importe quel moment. Rendez-vous également sur les réseaux Facebook, Twitter et Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires. Sur France Culture à midi, vous retrouverez Olivia Gesbert pour La Grande Table, mais il est 11h, et 11h, c'est l'heure de Culture Monde, présentée par Florian Delorme.